les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste toujours en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour tout le monde, on est en direct à la Grange des Violettes, l'espace jeune de Netreville. Pour m'accompagner pendant l'interview, il y a Isabelle, Thomas, Maëlia, Émilie et Océane à la technique.
Et puis il y a toi également, Danas, qui nous fait 5 jeunes filles et jeunes garçons de 11 ans. Et Isabelle, dont on taira l'âge, bien entendu.
Oui, oui. Et bien sûr,
Et bien sûr, il y a quoi ? Tu t'enflammes, Dana ?
Bah,
qui a-t-il derrière, alors ?
Il y a les vieux, bien sûr ! Il y a Vanessa, Cindy, Damien, qui est aussi à la technique. Et bien sûr, il reste notre ami JC.
Les vieux, je trouve que tu vas un petit peu fort, Dana, quand même. Hein.
T'en es sûr de ça ?
Bah écoute, c'est plutôt les adultes qui vous ont accompagné durant ce projet. Allez, on va te retirer le micro et on va laisser démarrer cette émission.
Principe Actif.
Cette petite radio est ce qu'on appelle une radio libre.
Une radio libre est avant tout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier, d'une ville ou d'une minorité.
Principe Actif 95.9 102.4.
Le ministre des Cultures.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme ce soir, nous aurons un reportage réalisé par Dana, Maëlia et Émilie sur le thème du harcèlement. Pour les accompagner, elles ont invité Béatrice Boutier, psychologue au CMP, à l'hôpital de Navarre et plus récemment au centre de consultation de la Madeleine. Nous poursuivrons cette émission avec la superbe chronique de Vanessa sur le projet film réalisé par les ados de AL2E sur le quartier Netreville et Clos-au-Duc et la passerelle pour le quartier de Saint-Michel. Et nous finirons cette émission avec Isabelle et Thomas qui ont participé à différentes sorties familles durant lesquelles ils ont réalisé des micro-trottoirs et des reportages. Et ils ont également une invitée, l'exceptionnelle Catherine Verrier, la référente famille AL2E. Mais tout de suite, que retrouvons-nous, JC ?
Eh bien, je propose que nous mettons en haleine avec un court extrait d'un micro-trottoir tourné autour du harcèlement.
Harceler, quel serait selon vous votre rôle ?
Bah, je pense que du coup, si c'était lui qui était harcelé, je pense que j'essaierais de lui donner des conseils pour que soit qu'il m'en parle, soit qu'il aille en parler à quelqu'un et essayer de trouver des solutions avec lui pour que du coup, il puisse résoudre ses problèmes.
Bienvenue, nous allons parler du harcèlement avec Béatrice Boutier, qui est psychologue.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a motivé à exercer le métier de psychologue ?
Alors, je dirais qu'au départ, quand on choisit ce métier-là, on a l'impression qu'on le fait juste pour aider les autres. Après, on se rend compte que finalement, quand on prend un peu de maturité, c'est qu'on a voulu se comprendre soi-même. Aujourd'hui... c'est pour aider des personnes à pas subir ce qu'ils sont dans la vie, on va dire ça pour. Voilà.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
16 ans.
Avez-vous eu déjà des patients victimes de harcèlement, des enfants, des adultes ?
Alors moi je n'ai travaillé qu'en psychiatrie adulte, donc je n'ai pas travaillé avec des enfants. Par contre, effectivement, j'ai eu des patients qui ont été harcelés, alors dans différents domaines, hein, que ce soit de plus en plus, je trouve, depuis quelques années, dans au CMP notamment, le harcèlement au travail, avec énormément de souffrance au travail. Après, il y a aussi beaucoup de harcèlement dans les couples, où on reçoit beaucoup de couples, beaucoup de femmes qui subissent le harcèlement du compagnon.
Que ressentez-vous face à votre patient ?
Alors ça, elle est terrible, votre question. Elle est terrible. Alors, ce que je ressens. Alors, normalement, je suis psychologue, donc on dit que on parle de neutralité bienveillante. Voilà, le psychologue doit être neutre et bienveillant. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, bienveillant et neutre. Neutre, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de parti pris, et bienveillant, bienveillant, bah, c'est plutôt vouloir du bien à l'autre. Après, ça, c'est la belle définition. Dans les faits, on n'est pas dans quelque chose où on va être ressentir ce que ressent le patient, parce qu'autrement c'est pas comme une copine. Si j'ai une copine qui pleure, je pleure avec elle. Dans mon métier de psychologue, si je pleure avec mon patient, je vais pas l'aider. Donc ce que je ressens pour le patient, évidemment je ressens des choses, mais mes études et mes outils théoriques m'ont permis finalement d'essayer de comprendre ce qui fonctionne pour le patient. Pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui lui arrive, quelle est sa souffrance. Et c'est ce qui me permet à moi déjà de ne pas aussi absorber toute la souffrance des patients, et puis à eux de les aider, parce que si effectivement je suis trop dans l'empathie, ça ne... Mais c'est... Voilà.
Quel conseil leur donnez-vous ?
Alors des conseils, c'est-à-dire à tous mes patients ou patients harcelés, c'est...
Harcèlement.
Alors, ça dépend, parce que souvent on voit les personnes qui arrivent, qui sont harcelées, sont énormément culpabilisées. Ils se sentent très coupables, ils se sentent honteux, ils ont une image d'eux qui est très dégradée. Donc c'est déjà aussi restaurer un petit peu ça, et puis les décaler, leur montrer qu'ils ne se sentent pas coupables du harcèlement qu'ils ont vécu. Et après, c'est d'essayer de comprendre finalement comment s'est mis en place le harcèlement. Tous les mécanismes, le harceleur, comment ça s'est passé, et finalement essayer d'aller trouver les failles chez cette personne. Enfin, on a tous des failles, hein. on a tous des failles. Donc aller chercher les failles pour parce que le harceleur va lui se servir de ces failles-là. Donc essayer d'aller dans l'histoire du patient, de comprendre ce qui s'est passé, et puis de restaurer un peu son narcissisme et l'amour qu'il a de lui.
Combien de séances sont nécessaires en moyenne ?
Oh, de 1 à 100 000. Il n'y a pas de séance, il n'y a pas de... Enfin, moi, dans ma pratique, après, je suis psychologue clinicienne, je tiens à le préciser, d'orientation plutôt analytique, donc je ne suis pas... Si j'étais comportementaliste, je dirais 20 séances, mais moi, je suis clinicienne, donc j'ai... Ça dépend. J'ai des patients que je suis depuis 6 ans, 7 ans, voilà, et qui viennent au départ pour un problème de travail, de harcèlement au travail, et puis finalement, ça débouche sur un travail sur eux-mêmes, sur l'envie de comprendre comment ils fonctionnent. Et...
Quel est le harcèlement le plus fréquent chez les victimes que vous rencontrez ?
Ben, ça dépend aussi du lieu dans lequel je travaille. Moi, je travaille effectivement avec des adultes, donc j'ai beaucoup à faire au harcèlement, comme je disais, de plus en plus harcèlement au travail, souffrance au travail, et aussi beaucoup de femmes qui subissent le harcèlement de leurs compagnons qu'elles ont quitté, ou alors le harcèlement téléphonique par SMS, et voilà, d'une certaine dégradation finalement de leur dignité psychique, morale, physique, sexuelle, voilà. Donc il y a pas, je voilà, je reçois surtout des adultes, donc pour les enfants, les adolescents j'avais fait un stage effectivement il y a quelques années, mais j'étais stagiaire à l'époque, et effectivement on pouvait recevoir des ados qui étaient harcelés. Et toute la difficulté était de les faire parler, de les déculpabiliser et de leur enlever le sentiment de peur qu'il y a souvent chez les personnes harcelées.
Avez-vous déjà eu à faire des harceleurs ?
Oui. Oui, bah oui, parce que j'ai travaillé en prison. Donc j'ai eu affaire à des gens qui ont effectivement harcelé. Oui, c'est pas... C'est pas facile. C'est pour ça que notre métier justement nous exige qu'on soit neutre, parce que autrement, forcément, si on est face à un homme qui a harcelé une femme, quand on est une femme, j'ai envie de dire, on pourrait ressentir voilà des des affects négatifs. Mais tout notre travail, c'est justement de réfléchir, en fait. C'est de réfléchir à ce qui l'a amené là et puis d'essayer de voir ce qui... Et puis ça dépend aussi du patient, s'il a envie de changer, s'il n'a pas envie de changer. On se retrouve face à des gens qui nient les choses et là, c'est très difficile de travailler.
Quels sont les mécanismes qui poussent certaines personnes à harceler les autres, comme les déceler, comme y remédier?
Oh, alors là, sacrée question. Je dirais que... Alors, c'est peut-être un mot qui fait très peur, mais qui... chez les adultes, on retrouve beaucoup ce qu'on appelle les pervers. Alors, les pervers, c'est pas forcément... la définition qu'on a usuellement des pervers, pervers sexuels, c'est pas ça. Les pervers peuvent être des harceleurs au niveau moral, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement percevoir la faille chez l'autre, une souffrance chez la femme, un manque d'assurance, et ils vont s'engouffrer dans cette faille. D'abord, dans un premier temps, en étant très charmant et en complimentant, et puis après en rabaissant la personne et donc c'est déceler un harceleur difficile. C'est des gens effectivement souvent très intelligents, très manipulateurs, donc pas facile de les déceler. Et qui après, je vois quand j'avais travaillé en prison, ce qui était difficile, c'est pour la catégorie des pervers, c'est qu'ils n'ont pas de culpabilité. Ils sont absolument sans culpabilité. Donc là, le travail n'est pas possible. Le travail de psychothérapie n'est pas possible.
Est-ce que les victimes peuvent alors toutes devenir des harceleuses?
Non. Toutes les victimes deviennent pas harceleuses. Après, effectivement, peut-être chez les jeunes, on peut... Je dirais que chez les ados, c'est peut-être un petit peu différent parce que ça peut être l'expression d'une souffrance à la maison qui fait qu'on s'en prend aux autres parce qu'on est en colère, parce qu'on est... C'est différent chez l'adulte, quand même. Chez l'adulte, c'est d'autres mécanismes. Mais l'enfant ou l'ado qui harcèle... Il y a souvent une souffrance derrière, il y a quelque chose, ce que j'ai pas à la maison, je vais aller le prendre à l'autre parce que j'ai l'impression que l'autre, il est mieux que moi, qu'il a quelque chose de plus que moi. Alors que chez l'adulte, c'est des mécanismes plus complexes. Heureusement, tous les harcelés ne deviennent pas harceleurs, heureusement.
Si vous étiez confronté à une scène de harcèlement dans la rue, comment réagiriez-vous ?
Alors, ce que je vous propose, c'est que ça y est, notre problème technique est résolu. En plus, on retrouve cette question dans le reportage que vous avez réalisé. Je propose qu'on écoute plutôt le reportage que vous avez tourné, ce qui donnera des éléments à Béatrice afin de répondre au mieux à toutes les questions. Puis, on vous demandera sûrement de réagir à ce que vous venez d'écouter, bien entendu. Vous voyez, le problème technique est résolu. On écoute le reportage tourné par Maëlia, Émilie et Dana. Non mais c'est pas possible ça, on va finir par y arriver ou bien?
Les différents types d'harcèlement que vous connaissez.
Moral, sexuel et psychologique. Et c'est tout.
Le harcèlement moral et le harcèlement physique.
Alors le harcèlement moral, le harcèlement physique, puis le harcèlement sexuel.
Le harcèlement à l'école, le harcèlement sexuel, ça peut prendre plein de formes en fait.
Ok, si vous étiez harcelé, comment réagiriez-vous ?
Y a plusieurs possibilités, ou vous plaignez auprès de, ça dépend de qui, de votre employeur, de la police, de la gendarmerie ou...
J'essaie d'en parler à quelqu'un, une amie proche ou de la famille, pour trouver une solution.
J'essaierai d'en parler à mes proches, mes parents, gens qui pourraient m'aider.
Moi, soit j'en parle ou je le tabasse, le gars.
Alors, je pense que quand on est harcelé, il faut en parler à quelqu'un, notamment quelqu'un qui a de l'autorité sur la personne qui nous harcèle, de façon à résoudre le problème.
Je suis pas quelqu'un qui se laisse harceler facilement, on va dire. J'ai tendance à répondre très facilement, mais si c'était quelque chose de très grave, on va dire, je pense que J'en parlerai et j'irai à la police ou quelque chose comme ça.
Si d'un de vos proches était harcelé, quel serait votre rôle ?
De l'aider, d'écouter déjà. D'écouter, je pense qu'il y a besoin d'écouter, de l'aider derrière et d'avertir des personnes compétentes pour que ça cesse.
J'en parlerai à ses parents. Enfin, je serai là pour l'aider, pour le rassurer.
Alors ça m'est arrivé puisque mon fils a été concerné. Donc on est intervenu auprès du collège puisqu'il était concerné par ce problème-là. Donc on a demandé un rendez-vous avec le responsable de l'école. Et puis on a essayé de traiter le problème avec le garçon en question.
De les écouter déjà, parce que je pense que c'est important. Parce que les gens en parlent pas souvent, on va dire surtout à l'école ou des trucs comme ça, ils ont tendance à plutôt se renfermer sur eux-mêmes. Et la conseiller et lui dire quoi faire et la guider, on va dire, pour que ça évite de se transformer en malaise et autre chose, quoi.
Ah bah de tout faire pour que ça s'arrête et le protéger, le défendre.
Mon rôle serait de la soutenir et d'en parler à mon entourage pour l'aider. D'après vous, c'est quoi le harcèlement ?
Dans sa généralité, embêter quelqu'un permanent, de façon continue, et réitérer X fois, plusieurs fois par jour et plusieurs jours par semaine, et ainsi de suite.
C'est une pression psychologique sur quelqu'un qui ne souhaite pas. C'est faire quelque chose que le... Enfin, forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas et insister très, très, très lourdement et voilà.
Le fait de s'en prendre à une personne sans raison valable pendant un certain temps qui pourrait l'amener à suicide ou alors à une dépression.
C'est une définition un peu compliquée puisque, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de harcèlement possibles. Donc, c'est lorsque quelqu'un fait pression sur quelqu'un d'autre contre la volonté de la personne qui est harcelée. Et puis, il y a une partie aussi de méchanceté dans ce contexte-là. Donc, c'est pas forcément facile pour celui qui est harcelé et pour celui qui est harcelé notamment. Pour s'en sortir.
Ça peut être des brimades, on va dire, répétitives. Par exemple, on va dire à quelqu'un, par exemple, j'aime pas ton pull, c'est quelque chose, mais lui dire tous les jours que t'es habillé, que t'es moche, etc., ça devient du harcèlement et c'est trop, quoi.
Ok, merci d'avoir répondu ces questions. Au revoir.
Alors là, c'était un reportage tourné par Maëlia, Émilie et Dana. Peut-être vous demander, Béatrice Boutier, si vous avez, donc je rappelle, vous êtes psychologue, si vous avez, des remarques par rapport à ce que vous venez d'écouter.
J'ai pas pris de notes, j'aurais dû, mais beaucoup de choses dans ce micro-trottoir qui était intéressant. La notion de répétition, effectivement, dans le harcèlement, il y a une répétition des actes. Ça peut être des actes, des comportements, ça peut être des paroles, et qui touchent finalement la dignité de la personne. Quand on dit « si je me retrouvais à quelqu'un de harcelé », c'est bien facile, assis à un bureau, tranquille, avec un micro, de dire « je prendrai évidemment sa défense ». Maintenant, il y a l'effet de groupe et l'effet de peur. Et c'est quelque chose contre lequel c'est pas évident, finalement, de lutter, parce qu'on a soi-même peur d'être pris pour cible, notamment, je pense, dans les collèges où la tête de Turc, hein, comme on dit, on se moque de lui et on n'a pas envie de prendre sa défense parce qu'on n'a pas envie de faire aussi partie d'être pris à partie. Donc, beaucoup de choses intéressantes dans ce micro-trottoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Confronté dans la rue, oui, j'ai envie de dire, bien sûr que j'aurais envie de répondre, je m'interposerai, comme disait le petit garçon, je lui mettrai une baffe. Maintenant, c'est facile à dire, on le dit tous, et puis dans les faits, finalement, on se rend compte qu'on voit bien des gens agressés dans le métro et personne ne bouge. Donc il faut rester humble. Évidemment, j'encourage dans ces cas-là. J'avais vu une émission où il disait que les personnes, pour se mobiliser, doivent se regarder, en fait. Parce que souvent, quand il y a, notamment dans le métro, quand il y a quelqu'un qui se fait agresser, tous les gens vont regarder leurs pieds. Et en fait, ce qui donne de la force, c'est le groupe en fait, qui va motiver d'intervenir. Parce qu'on a peur, on a tous peur.
Est-ce que le racisme est une forme d'harcèlement ?
Oui, c'est une forme de harcèlement, le racisme. Puisque c'est toucher à l'intégrité de la personne par rapport à une différence, une différence raciale, culturelle. Donc oui, c'est du harcèlement, tout à fait.
C'est puni
par la loi, il ne faut pas oublier de le dire aussi, hein, le harcèlement est puni par la loi.
Quelle est la différence entre le cyberharcèlement, le harcèlement moral, physique et sexuel ?
Eh bien, la réponse est dans la question. Alors, le cyberharcèlement, effectivement, qui s'est développé, et c'est. En consultation, ça fait 16 ans que je fais ce métier, je trouve que ça a flambé, c'est le harcèlement par SMS. Alors ça, c'est grandiose hein, quand même. On voit des gens qui arrivent en consultation et qui me disent « j'ai reçu 140 textos dans la journée ». Bon, c'est fréquent, c'est très fréquent, c'est très fréquent. Et avec la difficulté en thérapie, c'est de couper le lien d'emprise que le harceleur a sur le harcelé. Parce que souvent, dans ces cas-là, on dit vous n'avez qu'à changer de numéro de téléphone. Et non, il y a ce lien d'emprise qu'a le harceleur sur le harcelé. Donc c'est vraiment dégager la personne. Donc c'est pour ça que c'est un travail long. Ça ne se fait pas comme ça. C'est d'essayer de comprendre ce qui fait que l'autre s'est fait manipulé, emprisonné par ce harceleur. Ah, donc ça, c'est la cyber. Harcèlement sexuel, ça peut être quotidien aussi. Hein, si on est une femme et qu'on se promène dans la rue et qu'on a des commentaires, j'estime que ça peut être une forme de harcèlement. Alors, évidemment, c'est quand c'est pas répété, mais c'est quand même quelque chose qui vient toucher notre dignité et notre intégrité, et contre lequel on doit se battre, on doit dire non. Après, il y a toujours ce sentiment de peur, et puis ce sentiment que la rue appartient à l'homme. Voilà, ça c'est vu aussi un reportage fort intéressant qui disait que ça date de très longtemps, de la préhistoire, où les hommes sont sur le terrain et les femmes restent à la maison quand même. Donc une femme dans la rue, elle est la cible des hommes, effectivement.
Merci Béatrice Boutier, nous rappelons que vous êtes psychologue. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Ben, merci à vous.
Nous retrouvons juste après, comme l'avait annoncé Cindy lors de ce magnifique sommaire. Vanessa, je crois que toi, tu as bossé sur un projet du même type. Ou en tout cas, il y a eu un projet autour du harcèlement qui a été produit avec le Closoduc et Saint-Michel, je crois.
C'est ça, tout à fait. Bonsoir JC, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on a mené plusieurs actions cette année avec la passerelle Saint-Michel, avec qui on travaille pas mal avec nos jeunes. Et donc effectivement, on a travaillé autour de l'utilisation du téléphone portable avec les jeunes et de tous les méfaits que ça pouvait avoir quand on a une mauvaise utilisation, notamment avec les réseaux sociaux. Et l'aboutissement de ces quelques interventions, c'est le tournage d'un clip de prévention sur les dangers liés à cette mauvaise utilisation. Donc c'est un clip qui dure à peu près 3 minutes, qui a été tourné pendant une dizaine de jours au mois de juillet avec les jeunes donc du Closoduc, de Netreville et de Saint-Michel. Et je crois que JC, tu as une question ?
Mais je veux savoir où est-ce qu'on peut regarder cette production ?
Alors pour l'instant, le film est en montage. Il devrait être prêt aux alentours du mois de septembre. Dans l'idée, c'est que le film soit sélectionné pour le Festival de l'Éducation.
Et, Festival du film,
du
de,
film
l'éducation.
De l'Éducation. Pardon. Et à terme, on souhaite qu'il soit diffusé le plus possible par qui voudra bien s'en servir comme support, c'est-à-dire les établissements scolaires, les associations, enfin qui voudra et qui sera intéressé par ce clip. Voilà, donc je vais poser quelques questions à Dana, qui est parmi nous ce soir, comme vous avez pu le remarquer, et qui a participé à ce clip. Et je voulais savoir, Dana, je voulais que tu dises un petit peu aux auditeurs de quelle façon tu as participé à ce film.
Oui, bien sûr, je suis d'accord.
Alors, quel a été ton rôle pendant ces 10 jours de tournage ?
Mon rôle à moi, en fait, je joue une petite fille, Sophie, qui s'appelle Sophie. Et je joue dans un groupe de jeunes qui va harceler une fille sur Facebook.
D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez préparé les scènes de tournage ? Est-ce que ça a été difficile pour toi ? Est-ce que ça t'a plu ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ?
Bah, au tout début, c'était super dur parce que j'étais la plus petite, je me sentais timide, mais à quelques temps, je me sentais bien à l'aise et tout ça. Et on a commencé à faire les répétitions, on a fait les impros et tout ça. Et moi, ça m'a plu beaucoup.
Et comment s'est passée la relation avec les jeunes de la passerelle, les filles plus âgées du coup que tu ne connaissais pas pour le tournage de ce clip ? Est-ce que du coup, à la fin, ça a vraiment créé une homogénéité, un groupe
Bah, en fait, je connaissais que Stacy. Et donc, je parlais qu'avec Stacy et tout ça, mais les autres, je ne connaissais personne. Et donc, avec quelques temps, je me suis fait habituer, je parlais c'est avec les autres. Voilà quoi, on est devenus amis, on se parle tout le temps.
Très bien. Par rapport au thème du clip, qu'est-ce que tu en as retenu personnellement ?
Personnellement, j'ai retenu que... En fait, qu'il faut faire super attention sur... sur internet, sur Facebook, quoi, voilà quoi, que il y a des harceleurs et tout ça, et donc je ferai plus attention.
Très bien. Et est-ce que tu aurais un mot à dire aux auditeurs pour essayer de leur donner l'envie de peut-être regarder ce clip quand il sera diffusé, enfin je sais pas, si tu as des idées sur la question, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Je sais pas trop, mais j'ai beaucoup apprécié ça et j'aime beaucoup jouer des rôles. Pardon.
Tu as aimé ça en fait ?
Ouais, voilà, j'ai beaucoup aimé.
T'as
voilà.
Pris beaucoup de plaisir. Bon, bah écoute, c'est l'essentiel. On te remercie beaucoup, Dana, d'avoir répondu à nos questions et je crois que c'est le moment de passer à la pause musicale avec Émilie qui va vous présenter la suite de l'émission.
Nous retrouvons Kinvey, petite Émilie, qui parle sur le harcèlement.
Petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle. Pour toute sa mère, elle en était la prunelle. Ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie,
À 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, ils l'appelaient la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse. Ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades tous ensemble l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.
Bonjour, nous allons vous parler de différentes sorties que nous avons faites avec AL2E. Le 22 juillet, nous sommes allés à Jumièges pour les fêtes médiévales. Nous sommes partis de la maison de quartier du Clos-au-Duc à 9h15. Ensuite, nous avons pris d'autres personnes devant la crèche de Netreville. Nous sommes arrivés sur le site vers 10h. Arrivés sur place, nous avons rencontré un problème pour le stationnement du bus. Du coup, le bus s'est garé dans un champ qui était destiné à accueillir les voitures des visiteurs. Une fois le stationnement résolu, bloqué de nouveau pour l'accès au site, et oui, il faut ouvrir les sacs à cause de Vigipirate. Une fois passés tous ces petits problèmes, nous pouvons entrer sur le site. Et là, nous entendons au loin des coups de canon, ça surprend. Impressionnant, beaucoup de monde et de bruit, car ils criaient et ils faisaient un peu peur. Après, nous sommes allés voir le marché médiéval, où l'on pouvait découvrir les coutumes de l'époque, visiter les campements et manger dans un food truck une assiette de frites maison et deux saucisses servies avec des couverts en bois. C'est vraiment original. L'après-midi, nous sommes allés voir une déambulation théâtrale dans l'enceinte de l'abbaye pour nous faire vivre l'histoire de l'abbaye. Dommage que les comédiens n'aient pas eu de micro et un estrade pour pouvoir les voir, car il y avait beaucoup de spectateurs, donc les enfants et aussi certains adultes ont eu du mal à voir et entendre. La pluie s'est invitée avant la fin de la déambulation, mais heureusement, elle n'est pas restée longtemps. Nous avons continué notre promenade pour regarder les jeux anciens. Déjà 16 heures, l'heure de partir, quel dommage, car nous n'avons pas résolu l'affaire des bruits de canon. Tout le monde était content de la sortie.
Et là, dans le bus, quelqu'un se promène avec un micro. C'est bizarre. Que veut cette personne? Nous le saurons peut-être, sûrement après cette petite interruption.
Bonjour, je m'appelle Thomas. Je réalise une émission de radio concernant la sortie de ce jour. Puis-je vous poser deux ou trois questions?
Oui, vas-y, je t'écoute.
Puis-je avoir votre prénom et à combien de personnes êtes-vous venu?
Alors, je m'appelle Émilie et je suis venue avec mes trois enfants.
Je m'appelle Maïmouna et je suis venue avec ma mère et ma petite sœur.
Je m'appelle Kevin et je suis venue avec ma maman et on est deux.
Trois.
On est trois dans la famille. Oui. Je m'appelle Chantal.
mon fils Emery et ma fille Arola.
Derrière.
Quatre personnes, donc avec une petite fille de 10 ans, bientôt, et trois adultes. Et bah, moi, je m'appelle Françoise.
Bah, c'est Christian, on est venu à 4. Quatre.
Par quels moyens avez-vous été informé de cette sortie ?
Par la maison de quartier.
On a été informé par l'association.
Eh bien, j'ai fait une brocante et c'est quand j'ai fait la brocante que j'ai découvert qu'il y avait une association qui proposait des sorties. Et donc, bah, depuis, c'est notre deuxième sortie. Voilà.
Par l'association elle-même et par le bouche à oreille par rapport à ma fille qui est là. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu apprendre. Et il restait de la place.
Par la maison de quartier.
Par Internet, sur le site de Evro.
Qu'avez-vous pensé de la sortie de ce jour ?
Bien, j'ai aimé la fête.
Bah, j'ai beaucoup aimé. C'était une belle fête.
Super.
Qu'est-ce que tu as aimé ? Les jeux en bois.
Oui, les jeux, le théâtre.
Les jeux en bois, tous les jeux.
C'est trop bien.
C'est très intéressant dans la mesure où on découvre les modes de vie, comment est-ce que les gens s'habillaient, s'alimentaient à l'époque médiévale. Et aussi, comment ça s'appelle, on a beaucoup aimé l'abbaye, beaucoup. Au niveau de la structure, le matériau utilisé, toute l'histoire. Qui va autour.
C'était la nourriture fait maison à l'ancienne époque, comme par exemple les crêpes et les déguisements aussi. Et le spectacle de théâtre dans l'abbaye.
Très bien, c'était des paysans. On a découvert comment vivaient les gens au Moyen-Âge et c'était très intéressant.
Ah, c'était une sortie formidable qui nous rafraîchit un peu la tête à propos de les anciens vikings et ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font manger, qu'est-ce qu'ils font production, comment est la vie quotidienne des vikings.
J'ai trouvé ça intéressant, ça parlait du Moyen-Âge, donc ça apprend l'histoire, tout ça, ça nous apporte beaucoup.
J'ai trouvé ça très bien parce qu'il y avait plein de choses à regarder et plein de choses à découvrir. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé.
Quelle activité et sortie avez-vous fait depuis le début de l'été ?
C'est la première sortie qu'on fait.
Là, on a fait la visite de France Miniature qui a été tout aussi intéressante. Ensuite, voilà, il y a des petites activités sur la ville d'Évreux, le village du sport, la culture. On fait des visites personnelles aussi, on va à la piscine, on fait du sport les dimanches, on fait de la lecture, on fait des jeux en famille ensemble.
Alors là, c'est notre deuxième sortie, comme je disais tout à l'heure. Et donc, notre première sortie, c'était France Miniature.
C'est la même chose.
Moi, c'est la première.
Merci de m'avoir consacré un peu de votre temps.
Je vous en prie.
Le 26 juillet, nous sommes allés à Étretat. Nous sommes partis de la maison de quartier du Clos-au-Duc à 7h45. Ensuite, nous avons pris d'autres personnes devant la crèche de Netreville. Ça fait tôt. On est en vacances. Nous sommes arrivés dans la commune des Loges, située à 6 km d'Étretat, à 10 heures. À peine descendu du bus, hop, 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 sur le vélo-rail, même pas le temps d'aller faire un petit pipi. Quelle drôle de machine, on pédale sur des rails, c'est bizarre. Nous montons sur un vélo-rail, deux personnes pédalent et trois autres qui se laissent promener. La chance. Vu que nous étions deux enfants et trois adultes, nous Nous avons fait pédaler les enfants pour une fois que les parents peuvent se reposer. Mais on s'est vite aperçu que l'on donnait que 2 ou 3 coups de pédale. Le vélo-rail roulait tout seul, car c'était en descente très douce, ce qui n'était pas trop fatigant. À certaines intersections, un adulte était quand même obligé de descendre pour faire la circulation, car nous ne sommes pas prioritaires par rapport à la route. Nous avons été un peu secoués comme dans un train et c'était un peu bruyant, mais surpris du dépaysement car beaucoup de verdure, les enfants ont adoré et les adultes aussi. Arrivé à la gare d'Étretat, la pluie a commencé son apparition, mais elle était fine. Pas de quoi gêner les Normands. Nous sommes allés à pied dans le centre-ville pour pouvoir aller voir la plage et les falaises. Arrivés sur la plage, toujours cette petite pluie, pas de sable mais des galets. Ça fait mal aux pieds. Nous partons pour monter sur la falaise. Dur, dur de monter. Mais arrivé en haut, quelle magnifique vue! Dommage, la pluie ne s'est pas arrêtée et elle a même augmenté. Du coup, le point de vue n'était pas lointain. Nous avons mangé les casse-croûtes en haut de la falaise malgré la pluie. Nous décidons de redescendre pour essayer de s'abriter en ville. Nous arrivons devant un petit marché couvert, bien sûr plein, car les gens ont eu la même idée que nous. Vers 14h, nous décidons de remonter vers la gare pour pouvoir prendre le train qui nous ramènera vers notre bus. Surprise ! Sur le parking de la gare, le bus nous attendait. Du coup, on a pu faire une petite pause séchage avant de prendre le train. À 15h, nous montons dans un vieux train où l'on pouvait fumer dedans, mais les cendriers ont été enlevés. Ce fut un grand souvenir pour les parents.
Du coup, on revoit de nouveau une personne avec un micro. Oh non, ça va pas recommencer! Des touristes surpris par cette personne se prennent au jeu et se font interviewer.
Très bon moment d'échange. Arrivé dans la commune des Loges, oh surprise, notre bus nous attendait et toujours autant de pluie. Tout le monde a adoré cette sortie malgré la pluie qui ne nous a pas quittés. Dans le bus, Catherine précise que nous n'avons pas le droit de manger dans le bus et là, on regarde Cindy qui est en train de manger une banane. Elle a été prise en flagrant délit. Du coup, elle s'est cachée pour pas que le chauffeur la voie, car si elle avait sali le bus, elle l'aurait nettoyé. Grosse crise de fou rire.
De nouveau, le micro se balade dans le bus. Mais que veut cette personne ?
Bonjour, je m'appelle Thomas. Je réalise un reportage de radio sur la sortie à Étretat du 26/07/2017. Qu'avez-vous pensé du vélo-rail de ce matin ?
C'était bien, j'ai bien aimé et ça allait très vite et c'est ça que j'ai aimé.
C'est très bien, le paysage était magnifique, il y avait beaucoup de verdure. Les enfants n'ont pas beaucoup pédalé parce que tout descendait, donc c'était marrant. Et puis, ben voilà, on a eu une belle matinée.
C'était super, il y avait plein de... C'était très beau le paysage et on allait vite, c'était super.
C'était très bien, ça allait vite, c'est une autre façon, c'est une autre facette du train qu'on a découvert, c'était très bien. Ça nous permet de profiter de la nature en plein air.
Moi j'ai bien aimé le vélo et tout.
C'était génial, j'ai trouvé ça, ça allait vite. J'étais impressionnée, mais alors qu'est-ce que c'était bruyant. Et c'était très rapide, c'était un peu trop court même.
Ben moi je n'ai pas pédalé, donc c'était super, mais j'avais les lunettes toutes mouillées, sans essuie-glace.
Ben moi j'ai dû pédaler deux fois plus, parce que comme elle n'a pas pédalé, donc c'était un peu dur, mais c'était très sympa.
Moi j'ai accompagné le pédaleur et puis c'était pas mal avec quelques gouttes sur les lunettes. Et puis c'était un temps, à l'origine c'était pas terrible hein, mais en fin de compte c'était agréable.
C'était sensationnel, c'est la première fois que j'en faisais, j'en avais jamais fait avant. C'était super.
Le vélo ride c'était super sympa. Dommage que sur Étretat il s'est mis à pleuvoir, c'est ça qui a un petit peu gâché la sortie. Mais sinon voilà, c'était sympa.
Bah, j'ai trouvé bien parce que bah, ça allait vite, Jean, et si bah, c'est nous qui avons pédalé et après il y a eu un petit peu de gouttes, mais c'était pas trop grave parce que au moins on a pu profiter du début.
J'ai trouvé ça sympa, c'est dommage qu'on n'a pas fait le retour aussi en vélo ride.
Une journée sympa mais pluvieuse, dommage.
Pareil que ma mère.
Oui, bah oui, pareil. Hein.
Qu'avez-vous pensé de la journée en général?
Elle était vraiment bien et Étretat est une ville très belle.
Merci. Dommage qu'il ait plu parce que sinon c'était vraiment très bien. Nous avons pu aller sur les coteaux de falaise qui sont très jolis, où on a une belle vue. La plage à falaise est magnifique et le retour en train, mais alors là c'est la cerise sur le gâteau.
C'était magnifique, on est monté sur les falaises, il y avait de beaux paysages et tout ça. C'est juste dommage qu'il y a eu du vent et de la pluie.
Et on n'a pas eu de chance parce qu'il a plu, mais on a pu profiter quand même de la falaise, la plage au galet et de tout ce que le paysage offrait. C'était fantastique tout de même, malgré les caprices du temps.
Malheureusement, elle était pluvieuse et humide, mais c'était une très belle journée et on a pu quand même profiter des jolis paysages d'Étretat et on a passé un bon moment. Tout le groupe avait l'air ravi. Donc, conclusion, super journée.
Eh ben, c'était super parce que nous, on ne connaissait pas Étretat et on a trouvé que c'était très beau et puis on a bien mangé ce midi.
Bah écoute, moi c'est pareil, c'est la première fois que je venais à Étretat parce qu'on n'est pas de la région et on a passé une belle journée et on a l'habitude de la pluie parce que nous on vient d'une région où il pleut beaucoup aussi, donc ça nous a pas dépaysé.
Alors nous venons en fin de compte, c'est bien fait, donc nous on vient du Nord-Pas-de-Calais, enfin maintenant du Hauts-de-France et plus particulièrement du Nord et du Pas-de-Calais, voilà. Et effectivement on a passé une très bonne journée et on a goûté, tu sais quoi? Une fondue au camembert. Génial.
Qu'avez-vous pensé de notre région?
Eh bien, écoute, il pleut qu'une fois chez vous, je pense. Oui. Mais il arrête pas de pleuvoir. Non, c'est une très jolie région.
Bah écoute, c'est une très jolie région, je suis d'accord avec mon copain. Et d'autant plus que moi, je suis content d'être dans ta région parce que j'ai mon fiston qui fait une colonie en tant qu'animateur. Et donc, je vais avoir le plaisir de le voir demain. Et ça fait plus de 15 jours que je ne l'ai pas vu. Donc, je suis très content d'être dans cette région.
Voilà. Et puis moi, bah, comme je les suis, bah, je suis très contente aussi.
Un peu pluvieuse, on était un peu mouillés, mais dans l'ensemble, il y a de beaux paysages à voir. Et c'est une belle ville, Étretat.
Merci de m'avoir consacré un peu de votre temps.
Merci beaucoup.
Vraiment, rien, avec plaisir.
Merci. Et je pense que tu vas faire un sacré métier plus tard.
Le 1er août, l'association L2E organise un repas partagé avec un concert sur la pelouse à côté de la crèche de Neutreville. Le repas partagé doit commencer à 19h, mais pas de présence de famille. Si, une famille a joué le jeu et a ramené son repas. Du coup, ce qui devait être un repas partagé s'est transformé en repas de famille sur la pelouse. De plus, le ciel est avec nous pour une fois qu'il pleuvait pas. Le concert de Lydia devait commencer à 20h, mais ça a pris un petit peu de retard. Du coup, de nouveau, un micro se promène. Il va être là toutes les activités que fait la L2E. Eh ben, va falloir mener une enquête, hein. Le concert commence vers 20h30 et là, beaucoup de gens présents. Ça fait plaisir. D'un seul coup, on voit arriver sur scène Sherifa Luna pour nous interpréter une de ses chansons. Derrière la scène, un groupe d'adultes font un grand graffiti au nom de l'association sur une grande affiche. Vers 22h, le concert se termine, pas une seule goutte de pluie. Écoutons le dernier micro-trottoir. Hein.
Pourquoi êtes-vous ici pour manger ?
Oui. Parce que j'ai vu avec la société, l'association L2E qu'il y avait un repas partagé, donc bah du coup on est là et puis après il y a un concert. Alors je sais pas de qui est le chanteur qui est là, mais voilà quoi. Donc ça va être pour passer une bonne soirée.
Ça a l'air d'être bon ce que vous mangez, c'est quoi ?
C'est à l'occasion d'un repas partagé. Alors j'ai une piémontaise, c'est délicieux.
Et c'est qui vous l'a faite ?
Je pense que c'est Madame Jasmin, Isabelle. Et puis, il me semble que c'est Thomas, vous appelez ?
Oui.
Ah oui, mais j'ai entendu parler de vous, que vous alliez nous interroger. Vous étiez content d'être là. Alors, mes chips sont tombés maintenant, avec le coup de vent. Hein ? J'ai plus rien avoir à manger. Alors, je suis venue avec mon petit-fils Corentin. Hein ? Il vient de Bernay, puis moi, je viens de Louviers.
Bonjour, Catherine.
Bonjour, Thomas et Isabelle.
Pouvez-vous nous dire à quoi sert le centre,
le secteur famille
du centre social de l'AL2E.
Alors le secteur famille, c'est permettre aux habitants du quartier Évreux et du Clos-au-Duc, de Netreville et du Clos-au-Duc, de faire des activités, de faire des sorties, de s'impliquer dans des projets tout au long de l'année.
Qu'avez-vous à nous dire pour le programme de l'été, Catherine ?
Eh bien, il est déjà bien entamé. Il y a eu des choses qui ont été faites que vous venez de décrire au mois de juillet. Il y en aura d'autres au mois d'août. Il va y avoir des sorties, il va y avoir des activités. Il ne faut pas hésiter à venir chercher les programmes soit à la maison de quartier du Clos-au-Duc, quand Véronique est là le mardi, mercredi, après-midi, jeudi, ou dans le bureau qui est au-dessus de la poste. Elle est là le lundi, le mercredi matin et le vendredi matin.
Que pensez-vous des activités faites en juillet ?
Moi, j'ai bien aimé parce que il y a eu du monde à toutes les activités. On n'a rien annulé. Ça a mixé aussi bien les habitants de Netreville que les habitants du Clos-au-Duc. Ça a permis de voir des choses qui étaient un petit peu différentes. Jumièges, c'était quelque chose qui n'était pas forcément prévu dans les autres sorties et puis qui a permis de vivre dans une autre époque. Donc, c'était des bonnes sorties au mois de juillet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, qu'avez fait les sorties, Thomas ?
Moi, j'ai bien aimé. Surtout, c'était un peu rigolo là avec Etretat où il pleuvait.
T'as trouvé ça rigolo, toi ? Moi, j'ai été trempée. Je voulais plus faire la randonnée du lendemain parce que je voulais plus entendre parler de la pluie. Mais si t'as trouvé ça rigolo, c'est super.
Merci, Catherine, de nous avoir proposé toutes ces activités au mois de juillet. C'est vraiment très gentil. Merci, Catherine.
Merci, Catherine.
De rien. Merci à vous d'être là.
Eh bien, c'est ainsi que se termine ce programme radio qui aura été réalisé, préparé, concocté, écrit, désécrit, réécrit, micro-trotté et tout ce qu'on veut bien par une équipe du Tonnerre, à savoir que justement à la conception de cette émission, nous avions Maëlia, Émilie, Dana, Océane, Thomas et Isabelle. Bravo à vous pour la réalisation de tous ces contenus radiophoniques. Nous avions bien entendu la complicité de l'équipe de la L2E, à savoir Vanessa et Cindy, bien entendu. Nous remercions nos invités. Merci Catherine d'être passée par nos micros. Béatrice Boutier également, qui est venue répondre à nos questions. Nous donnons rendez-vous fin août, parce que c'est pas fini. Ça va continuer à produire du programme durant le mois d'août. Nous vous donnons rendez-vous avec cette même équipe équipe ou une autre, on verra bien, ou une équipe étendue, ou en tout cas tous ceux qui souhaiteront s'emparer du micro sur les quartiers de Netreville et du Clos-au-Duc. La date, c'est ça que Catherine, tu voulais qu'on ajoute. La date, c'est le 31 août, cette date de direct, et ce sera à 18h.
La date, c'est bien le 31 août, mais je voulais juste qu'on ajoute que c'est une émission qui se prépare tous les lundis de 10h à midi. Alors, soit à l'Espace Jeune, soit à l'Étoile, et que ben, vous êtes tous invités à venir participer si vous habitez le quartier du Netreville et du Clos-au-Duc, bien évidemment.
Bah, très bien, Catherine, merci de le préciser. À la réalisation, à la réalisation de cette émission, nous avions le meilleur de nos hommes, accompagné de la meilleure de nos réalisatrices, à savoir Damien qui accompagnait Océane, ou Océane qui accompagnait Damien, allez savoir, c'est ça la question. Merci en tout cas pour votre écoute. Cette émission est retrouvable en podcast sur le site de Principe Actif à partir de vers demain à peu près.
C'était impressionnant quand même.